Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous retrouver, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vous réagirez au résultat de l'élection présidentielle en Guinée et la réélection dès le premier tour d'Alpha Condé avec plus de 59% des voix. Sélou d'Alain Diallo a quant à lui recueilli plus de 33% des suffrages et sans surprise, l'opposant dénonce des fraudes massives. Il entend saisir la Cour constitutionnelle tout en appelant à la poursuite des manifestations. D'ailleurs, ce lundi, le Front National de Défense de la Constitution appelle à une journée de mobilisation pour protester contre le troisième mandat du président Alpha Condé. Alors, que vous inspire ce climat? Craignez-vous ce lundi de nouvelles violences? Je vous rappelle que depuis la semaine dernière, 18 personnes ont été tuées d'après le gouvernement, une trentaine selon l'opposition. Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous avez été, depuis l'annonce des résultats par la commission électorale, plusieurs milliers à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Je crois que vous avez été 5 ou 6 000 sur le mur d'appels sur l'actualité, sans compter évidemment vos réactions sur WhatsApp et au standard, au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va commencer avec vous, Abdraman. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Merci de nous appeler de Bamako. Vous êtes au Mali et vous avez justement des questions concernant l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.
Oui, bien sûr, Juan. L'ancien président Ibeka, après un mois de séjour aux Émirats arabes unis pour des soins, est de retour à Bamako depuis la nuit du jeudi. À cet effet, j'ai deux questions. Que sait-on de son état de santé actuel?
Ah, alors on va déjà répondre à cette première question avec Serge Daniel, qui est le correspondant de RFI à Bamako. Bonjour, Serge.
Juan, bonjour.
Alors, précisons tout de même que depuis son retour à Bamako, l'ex-chef de l'État n'a fait aucune apparition en public. Que sait-on de son état de santé?
Alors, quelques heures avant de son retour à Bamako, une photo authentifiée a circulé sur les réseaux sociaux. Ibrahim Boubacar Keïta était plutôt bien portant à côté de son épouse Ami. Alors, lorsqu'il est monté ici, difficilement, on se souvient, depuis septembre, dans l'avion pour Abu Dhabi, les gens étaient plutôt inquiets. En tout cas, lorsqu'il est revenu la semaine dernière, les témoins qui l'ont vu ont affirmé qu'il se portait bien, je répète, qu'il se portait mieux qu'avant son départ. Maintenant, officiellement, on ne sait pas exactement de quoi souffre le président. Il faut quand même rappeler l'âge du capitaine, 75 ans. Avant son départ de Bamako, puis après le coup d'État qu'il a renversé, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été admis dans une clinique ici pour, selon une source médicale, un très court AVC. Est-il revenu parce qu'il a pris l'engagement de revenir après les soins? Va-t-il repartir? On ne le sait pas. Retenons pour le moment que Ibeka se porte mieux qu'avant son départ.
Oui, c'est ce qu'affirme son entourage. Son état de santé s'est amélioré. Il est revenu d'Abu Dhabi, dit-on, requinqué. Abdraman, vous avez d'autres questions concernant toujours l'ex-président Ibeka?
Oui, Juan, le mouvement M5-RFP est un mouvement contestataire qui a largement contribué à la chute du régime Ibeka. Demande aujourd'hui à ce que le président Ibeka soit jugé. Donc, sur quelle base Ibeka pourrait être poursuivi?
Ouais, c'est vrai que depuis le retour d'Ibeka au Mali, le M5, ce mouvement de contestation qui a été à l'origine de son départ, demande effectivement que l'ex-président soit traduit devant la justice. Serge Daniel, traduit devant la justice, mais sur quelle base?
Et ici ouvert, faut-il juger Ibeka ou pas? Va-t-il être jugé? Il y a ceux qui estiment qu'il doit bénéficier simplement d'un statut d'ancien président avec des privilèges, alors que certains, comme le disait tout à l'heure Brahman, comme au M5, le mouvement qui a participé à sa chute, souhaite le voir jugé, notamment pour haute trahison. Mais c'est un long processus qui n'a même pas commencé ici. Ici au Mali, les anciens chefs d'État ne peuvent être jugés que par la haute cour de justice, après une mise en accusation par les députés, par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on n'a plus d'Assemblée nationale, il faut donc attendre. Et entre-temps parti, il ne faut pas oublier, on reprochait notamment à Ibeka des problèmes sécuritaires du pays. Mais ces problèmes demeurent. L'état de grâce est terminé pour les nouveaux dirigeants. Et ici, en attendant la suite des événements, les proches de Ibeka, de l'ancien président Ibeka s'inquiètent. Juan Aiz affirme que depuis son retour la semaine dernière, il n'a toujours pas eu de droit de visite.
Vous souhaitez réagir justement à ce mouvement du M5 qui affirme que l'ex-président doit s'expliquer devant la justice de son pays. On peut en parler si vous le souhaitez évidemment vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi vous commentez l'actualité de votre choix. Abdraman, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, Ouran. Merci à Serge et merci à toute l'équipe.
Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, à qui je souhaite une bonne journée, tout comme à vous, Abdraman. À Bamako, il est 8h16, 33 9, 693, 693, 70. Vous l'avez suivi sur RFI, le cessez-le-feu conclu en Libye. Bonjour, Maki.
Oui, Ouran, bonjour et bonjour à tous.
Vous avez des questions concernant, justement, la Libye?
Exactement. Alors, les représentants du gouvernement national et de l'armée nationale libyenne, les deux parties en conflit en Libye, se sont accordés sur un cessez-le-feu permanent. Alors, Juan, comment expliquer que les deux parties se sont entendues sur ce cessez-le-feu ?
Ouais, c'est vrai que les choses se sont accélérées ces derniers jours. Houda Ibrahim, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, il s'agit donc d'un cessez-le-feu complet, immédiat et permanent qui a donc été signé vendredi à Genève sous les auspices des Nations Unies. Comment les ennemis sont-ils parvenus à s'entendre sur ce texte ?
Il fallait s'entendre parce que les Nations Unies et les États-Unis derrière eux poussaient au maximum pour avoir cette entente. Il faut rappeler que la Libye vit dans un chaos énorme depuis 2011 et aucun accord depuis, c'est-à-dire l'accord de Sraïlot en 2016, signé au Maroc, les accords qui ont été signés en Égypte et ailleurs, les réunions des pays voisins de la Libye n'ont jamais servi à rien. Et depuis le début, les Nations Unies disent qu'il faut que les Libyens s'entendent entre l'accord de Genève. Ce qui est bien dans cet accord, c'est que enfin les Libyens, face à face des militaires de l'Est libyen et de l'Ouest libyen, se sont réunis. Alors, sur la valeur de cet accord, c'est certainement un pas en avant, c'est certainement positif, mais il y a énormément de difficultés, notamment les difficultés que la guerre en Libye est une guerre par procuration. On sait aujourd'hui que le Wagner russe et que les forces turques suppliées par les forces syriennes ramenées par les Turcs en Libye sont là et ils étaient là pour rester un long moment. Et toute la difficulté, c'est de le sortir de là. L'accord de Genève stipule que ces forces, à partir de vendredi dernier et dans une période courte de 90 jours seulement, doivent quitter les pays.
Ouais. Alors, donc ça veut dire concrètement, pour que les auditeurs comprennent bien, que depuis vendredi, les mercenaires, les combattants étrangers déployés en Libye ont 90 jours pour plier bagages.
Exactement. Alors, toute la difficulté est là. Est-ce que la Russie, est-ce que la Turquie, est-ce que les autres pays étrangers qui sont impliqués en Libye vont jouer le jeu des Nations Unies ? C'est ça la question. Alors, hier, Stephanie Williams, l'envoyée spéciale par intérim en Libye, a affirmé que l'ONU a l'intention de sanctionner toute personne ou partie étrangère ou pays étranger qui bloque ou fait obstruction à l'accord de Genève. Donc, les choses se dirigent dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a annoncé la liste de personnes qui vont participer à la commission politique, à la réunion politique, et ça aussi c'est pour la première fois, ça va avoir lieu depuis 2016 en Tunisie le 9 novembre. Les résolutions de l'accord qui est issu de cette réunion, donc de la réunion politique, plus la réunion de Genève, vont faire l'objet d'une résolution aux Nations Unies, une résolution contraignante pour toute personne ou tout pays étranger qui n'obéit pas à ces résolutions.
Oui, alors parce qu'il y a effectivement les négociations qui se sont tenues à Genève. Là, c'est le volet, on va dire, militaire de l'accord. Et puis, il va y avoir le processus politique qui va donc démarrer dans quelques semaines, début novembre, vous le disiez, Houda, en Tunisie. Et l'objectif de ce processus politique, c'est évidemment de former le futur gouvernement d'unité nationale. Maki, on me dit que vous avez une dernière question, alors rapidement.
Exactement. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de mercenaires de milices dont la présence déstabilise forcément la Libye. Alors, de quelle manière ces groupes ont-ils été associés à ces pourparlers?
Ah oui, on parle effectivement d'un accord militaire Houda Ibrahim. Encore faut-il que ces combattants étrangers, que ces mercenaires dont vous nous parliez à l'instant, soient associés aux discussions. Est-ce que ça a été le cas?
Bien sûr, c'est un accord qui est le fruit des mois de discussions, non seulement avec les Libyens, entre les Nations Unies et les Libyens, mais avec les pays voisins, avec la Turquie, avec la Russie. Mais comme je dis, la conférence de Berlin, tous les pays étrangers impliqués en Libye ont pris une décision, ils étaient d'accord pour ne pas s'impliquer dans ce dossier. Or, ce qu'on a vu, plus d'armes envoyées en Libye par certains, plus de mercenaires envoyés en Libye, et personne n'a respecté les termes de l'accord de Berlin. Là, on revient rappeler les mêmes choses. Je vais juste citer un exemple pour essayer de relater les difficultés de s'engager dans cet accord. Hier, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense libyen au gouvernement d'Union nationale à Tripoli a fait une déclaration étonnante. Il a dit les forces turques qui entraînent les Libyens, les forces libyens à l'ouest de la Libye doivent rester. Or, l'accord de Genève stipule toutes les forces, tout accord militaire avec n'importe quel pays est suspendu jusqu'à l'arrivée du nouveau gouvernement d'Union nationale. Alors, à Genève, on s'accorde sur une chose, et la difficulté aussi en Libye, c'est que si on a d'un côté l'armée nationale libyenne qui a un ordre et un seul ordre, les difficultés à l'ouest libyen, c'est qu'il y a plusieurs parties et chaque partie prenne la décision qui lui semble bon.
À noter d'ailleurs la réaction immédiate de la Turquie, après l'annonce de ce cessez-le-feu, Recep Tayyip Erdogan a affirmé que cet accord, je le cite, manquait de crédibilité. Ça en dit long sur les prochaines semaines. Je vous interromps, Houda Ibrahim, on pourrait parler de la Libye toute la matinée, mais on a d'autres questions, d'autres auditeurs. En tout cas, merci infiniment, Houda, d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Maki, à Conakry. Maki, est-on complet dans les explications?
C'était parfait, Roi. Ouais.
Parfait. Merci. Surtout, un grand merci à Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI. Bonjour, Ibrahima.
Bonjour, Juan.
Vous avez des questions concernant les récentes déclarations du pape François?
C'est ça. Dans le documentaire Francesco, du réalisateur Evgeny Afinevski, projeté au Festival international du film de Rome, le pape François a donné un avis favorable à l'union civile entre couples du même sexe, alors qu'en 2017, il interdisait formellement le mariage. À ce propos, j'ai deux interrogations. Premièrement, s'agit-il d'une avancée de l'Église en matière des droits homosexuels? Et deuxièmement, comment réagissent les différents courants au sein de l'Église catholique?
Oui, on imagine évidemment que ces propos du pape François dans ce documentaire divisent au sein du Vatican. Bonjour Anthony Favier.
Bonjour.
Membre de la conférence de rédaction de Témoignages chrétiens, vous êtes l'ancien coprésident de l'association LGBT chrétienne David et Jonathan. C'est la première fois en tout cas qu'un pape se dit favorable aux unions civiles pour les couples lesbiens et gays. En soi, c'est tout de même une petite révolution tout de même.
Alors, c'est sûr que même si il y a peut-être des soucis liés au montage de la vidéo, comme l'a révélé le New York Times, même si plein de personnes tentent à nuancer ou minimiser ce qu'aurait dit le pape François, le propos que l'on trouve dans le documentaire d'Evgeny Afinevski constitue quand même une forme de rupture, parce que en 2003, la Congrégation de la Doctrine de la Foi, donc l'organe du Vatican en charge de défendre la vérité de la doctrine catholique, avait bien demandé à tous les catholiques, et particulièrement aux chefs d'État, de gouvernement, de s'opposer à l'union civile. Donc du coup, là, cette prise de position en faveur de l'union civile, et non pas, comme votre auditeur le dit, le mariage,
voilà.
Le mariage n'est pas évoqué, ça constitue quand même une évolution.
Alors c'est une évolution. Je reprends les propos du pape pour que tout le monde les ait en tête. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit d'être en famille, dit-il, et d'ajouter ce que nous devons faire, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit, donc ces familles homosexuelles, ces parents homosexuels, d'être légalement protégées. Que faut-il entendre par ce terme de famille? Est-ce qu'il ouvre la voie, selon vous, hein, selon votre interprétation, Anthony Favier, à la parentalité des couples homosexuels?
Alors c'est dur parce que comme le Vatican se refuse à recommenter la citation, et là il y a beaucoup d'implicites, donc on n'est que dans l'interprétation, c'est difficile de dire. Moi, à mon humble avis, je comprends plutôt que la phrase sur la famille comme ce qu'avait dit le pape François au retour de Dublin, où il y avait la rencontre mondiale des familles catholiques, où il avait dit qu'il était important aux enfants homosexuels de ne pas être coupés de leur famille, dans le sens le droit à continuer d'être dans sa famille, d'avoir accès à ses parents, ses cousins, ses frères et sœurs. Il me semble que ce serait surinterprété que de dire qu'il est en faveur de l'homoparentalité, la GPA, la PMA. À mon avis, c'est pas ça. C'est le droit d'être en famille. Quand on est homosexuel, les parents ne doivent pas rejeter les enfants. C'est ça, à mon avis, qu'il dit. Hein. C'est le droit à faire partie de la communauté, de l'Église et de la famille. À mon sens, c'est ça qu'il faut entendre dans ce segment de phrase.
En tout cas, il ne s'agit pas clairement d'une ouverture au mariage entre deux personnes de même sexe. Vous le regrettez, Anthony Favier, ou pas? Vous dites, chaque chose en son temps tout de même. Quoi qu'il arrive, François, depuis qu'il est pape, donc depuis, si ma mémoire est bonne, 2013, multiplie les déclarations ici et là concernant justement l'homosexualité.
C'est ça, c'est-à-dire que si on replace les propos du pape François dans une série d'autres phrases et d'événements, il y a clairement une avancée qui ne peut être que saluée. Ça a commencé dès 2013, le retour des JNJ à Rio, où il avait dit « si une personne homosexuelle cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour juger ?» Ça avait déjà ébranlé pas mal les choses. Deux synodes de la famille, donc une réunion d'évêques à Rome, dans lesquelles on a eu des textes, même si certains n'ont pas été adoptés au final, qui étaient quand même assez ouverts sur la reconnaissance des homosexuels, sur les couples qui peuvent dire des choses aux autres catholiques. Tout ça, mis dans cette série-là, cette dernière phrase, fait qu'il y a quand même un changement de tonalité. Ouais. Si vous voulez, sous Jean-Paul II et Benoît XVI, c'était surtout défendre la dignité de l'être humain, défendre la dignité de l'homme, c'était s'opposer coûte que coûte aux actes homosexuels. François, il renverse un peu la table. Il dit avant tout, il faut voir les homosexuels comme aimés par Dieu.
Ibrahima, vous nous avez posé une autre question, vous nous avez demandé comment réagissaient les différents courants au sein de l'Église, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Oui. Anthony Favier.
Alors évidemment, là, comme l'Église catholique est une religion qui a de nombreux fidèles sur plusieurs continents, on a toute une gamme, une palette large de réactions. Alors évidemment, les courants d'ouverture saluent ce qu'a dit le pape François. En Allemagne, où l'Église catholique est engagée dans une démarche synodale, il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour mieux inclure les homosexuels. Donc là, les pans des églises occidentales qui sont assez ouvertes sur ces questions-là sont vraiment satisfaits. Mais évidemment, il y a des contestations. Même en Allemagne, le cardinal Müller, qui a été le préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, a dit dans la Corriere della Sera, le grand journal italien du 23 octobre, que le pape n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Donc c'est quand même une critique assez ouverte. Ouais. Évidemment, d'Amérique du Nord, ça réagit mal aussi. Le cardinal Burke, l'ancien nonce Vigano, tous ces courants hostiles au pape François en rajoutent. Néanmoins, je tiens à préciser une chose.
Rapidement.
C'est que l'Organisation internationale catholique homosexuelle, le Global Network of Rainbow Catholic, qui est une organisation mondiale, hein, c'est-à-dire où il y a des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques et des Occidentaux, existe depuis 2015 et a pris faveur en faveur du pape François. C'est-à-dire que même dans les pays du Sud, qu'on dit parfois pas pro-homosexualité, il y a quand même des réactions positives. Donc il ne faut pas opposer l'Occident pour François et les églises du Sud contre François. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Effectivement, et vous avez bien fait d'insister sur ce point. Merci infiniment, Anthony Favier, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Ibrahima. Vous y voyez plus clair, Ibrahima, dans les positions
oui, je vois bien plus clair,
et les propos du pape François?
Oui, c'est clair, j'y vois bien plus clair. Et merci à vous, à Audrey, à tous les autres.
Et à toute l'équipe, évidemment, qui m'aide au quotidien à vous présenter cette émission. Anthony Favier, merci, membre de la conférence de la rédaction de Témoignages Chrétiens. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, vous continuez évidemment à nous appeler. Le standard reste ouvert. On attend également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. On marque une pause, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI et on revient tout de suite après pour commenter les résultats de la présidentielle en Guinée.